L'ALEP, de l'éducation populaire à Blois. Retrouvez l'actualité culturelle et artistique de l'association de loisirs et d'éducation populaire le lundi à 20h sur les ondes de Studio ZEF. Stages, conférences, spectacles, expositions, sorties et activités, nos invités vous présentent l'agenda mensuel de l'ALEP. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site de la radio studiozef.fr. Geneviève Bourget, vous êtes vice-présidente de l'association Chantelune, qui est un groupe vocal. Vous nous présenterez tout à l'heure ce que c'est exactement, voilà, le programme complet. Hein, à côté de vous, il y a Gérard Moreau. Bonjour, vous êtes là pour la conférence du 10 décembre sur...
Sur le Kyrgyzstan.
Sur le Kyrgyzstan, ouais. Voilà. Vous le dites très très bien, c'est parfait. Ensuite, nous avons Fred Chailleux et Étienne Pouvreau qui sont là également pour la participation aux 50 ans de l'ALEP. Vous êtes graphistes tous les deux. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Étienne, les habitués de Studio ZEF te connaissent puisque tu fais une émission musicale qui s'appelle...
Le détour musical, le dimanche à 18h.
Voilà. Bon, on y va, hein, Mélanie ? On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Ça commence par une exposition ?
Oui. Alors, l'exposition, c'est l'exposition, deux expositions qui ont lieu pendant tout le mois de décembre et qui ont été lancées au vernissage. Leur vernissage était durant les 50 ans de l'ALEP, samedi dernier, il y a deux jours. Donc on peut revenir sur les 50 ans et puis on parlera d'une des deux expos plus longuement avec Fred et Étienne, les deux graphistes.
Ah ouais, tout à fait.
Donc pour revenir sur les 50 ans de l'ALEP, c'était samedi soir. Il y a eu pas mal de monde, c'était très très chouette. On a eu beaucoup de retours très positifs. On a d'abord commencé par présenter les deux expos qui seront là pendant tout le mois de décembre. Donc l'expo du nouveau logo de l'association pour fêter ses 50 ans. Elle s'est refait une jeunesse graphique. Et l'expo qui présente les 50 dernières et premières années de l'ALEP, qui s'appelle 50 années d'ALEP, où on revient sur l'histoire de l'ALEP avec des photos, des papiers, des comptes rendus, pas mal de choses. Mmh. Et une troisième aussi expo, qui est l'expo d'une artiste qui se fait appeler La Morue. Et vous pouvez aussi la voir jusqu'au 20 décembre. C'est une expo, c'est une personne qui récupère des animaux qui sont morts quand ils sont en phase de décomposition, qui prend leur squelette et qui en fait des œuvres. Et c'est très sympa. Enfin, il faut aimer, évidemment. C'est particulier. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, elle fait des trucs très drôles. Et voilà, c'est vraiment
sympa. Oui, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. C'est pas du tout morbide.
Non, pas du tout.
Loin de là.
C'est très drôle.
C'est plutôt drôle. Oui. Et c'est très inventif. Pour la connaître, je sais qu'elle passe beaucoup, beaucoup de temps. Et elle fait un travail admirable pour créer ces œuvres-là.
Oui, ça a l'air très, très minutieux.
Oui. C'est très minutieux.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est sous vitrine. Hein,
oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est dans le hall de l'espace Quinière aussi. Et donc, il y a eu toute une partie vernissage, cocktail. Et à 20h30, samedi, il y a eu un spectacle d'impro d'une troupe professionnelle d'improvisation théâtrale de Paris qui s'appelle Le Grand Showtime. Et voilà, c'était entrée gratuite pour les adhérents et adhérentes de l'ALEP. Donc on a fait ça le comble et c'était très très drôle. Certaines personnes autour de la table étaient présentes, il semble. Ils pourront peut-être en parler.
Ouais. Fred, tu veux dire un mot sur le grand showtime, ça t'a plu ?
Oui, ça m'a plu, c'était drôle, c'était très vivant. Et puis assez surprenant, c'est quand même une prouesse assez étonnante, hein, cette impro-là avec le public, c'était super.
Oui, donc c'est un groupe, là ils étaient trois, mais apparemment ils sont 10
ou 11 je crois, et ils passent toutes les semaines à Paris.
Au point virgule.
Au point virgule, je crois que c'est tous les vendredis et samedis, toutes les semaines. Mmh. Ouais. Voilà, donc il n'y a qu'une partie qui a pu venir samedi dernier, puisque le reste de la troupe était à Paris.
Bon, en tout cas, ils ont bien mis l'ambiance.
Oui.
C'était un grand succès ces 50 ans quand même. Il y avait énormément de monde.
Je trouve aussi. Mmh. Et on a eu des super retours tout au long de la soirée. Et ça fait plaisir parce que c'est quand même un gros travail. On peut aussi. Enfin, je pense que Gérard pourra en parler aussi parce qu'il nous a donné aussi beaucoup d'infos pour créer l'exposition. Parce que Gérard, l'ancien directeur de l'ALEP, il est resté pendant des années.
Oui, je trouve qu'effectivement cette exposition est bien réussie parce que c'était pas facile sur quelques panneaux de retranscrire 50 ans d'activité et surtout que y a quand même eu, on voit qu'il y a eu beaucoup d'activités. Et puis retrouver un peu toutes les personnes et tout, c'était très bien.
Oui, j'imagine que vous avez revu. Peut-être pas mal de personnes que vous aviez connues pendant des années à l'ALEP.
J'ai reconnu effectivement plein de têtes. Bon, malheureusement, il y a quelques personnes qui sont décédées.
Mais oui,
bon,
forcément,
c'est le cours de la vie.
Mélanie, il devait y avoir une conférence gesticulée le vendredi 6 décembre.
Oui.
Mais visiblement pour cause de grève générale.
C'est ça.
Mobilisation générale.
Voilà, ça devait être le premier événement du mois de décembre.
Ouais.
Et donc Julie Babamy de Souza, qui est la conférencière gesticulante du spectacle, habite à Rouen. Et donc ne peut pas venir parce qu'elle devait venir en train. Et vu que c'est grève générale, elle n'aura pas de transport, elle n'aura pas de train. Donc ça va être, la conférence va être reconduite en janvier 2020. On vous dira la date au rendez-vous de janvier de Studio Zef.
Voilà. Tu peux juste nous dire un mot sur ce qu'est une conférence gesticulée.
Alors une conférence gesticulée, c'est un mélange entre un spectacle et une conférence. Donc c'est une conférence parce que la personne qui fait le spectacle parle d'un sujet en règle générale de société. Mais la conférence est un peu théâtralisée, enfin plutôt théâtralisée, ça dépend des conférenciers et conférencières. Et ça parle toujours de sujets plutôt politiques et sur lesquels on veut travailler et on cherche ensemble des solutions. Donc la personne part plutôt de son vécu, ce qu'on appelle en éducation populaire le savoir chaud, opposé au savoir froid qui est ce qu'on apprend dans les livres. Donc elle part de son vécu, de quelque chose qu'elle a ressenti, qu'elle a vécu dans sa vie. Et elle alimente ça de savoir froid, donc de rencontres avec des professionnels ou de ce qu'elle a lu dans les livres. Et elle en fait un spectacle et après, voilà, c'est suivi d'une discussion avec le public et parfois d'ateliers. Là, ça ne sera pas le cas, mais d'une discussion avec le public.
Oui.
Voilà.
Oui, il y a toujours une discussion avec le public en général après, bien sûr.
Mais il y a toujours, en tout cas, un atterrissage politique dans ces conférences gesticulées. Là.
Tout à fait.
Voilà.
Ensuite, le mardi 10 décembre, je vais vous passer la parole, Gérard. Dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe?
C'est tout simplement une conférence, en fait, c'est un film. C'est une ciné-conférence, donc c'est un reportage, un documentaire, on peut dire ça, enfin une expérience vécue, puisque pour resituer un peu les choses, il y a 4 ans, je suis parti par voie terrestre en Asie centrale, pour visiter 5 pays, à savoir l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, dont c'est l'objet dans cette conférence, et puis la Mongolie et la Russie. Donc l'an dernier, déjà, on avait présenté le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, et cette année, c'est la suite, donc avec le Kyrgyzstan, qui est un... Alors, pour situer un peu ces pays-là, parce que quand on n'y est pas allé, si vous regardez une carte de l'Asie, c'est pas toujours facile de les positionner. D'autant que c'est des pays qui sont relativement récents, puisque avant, ça faisait partie du bloc de la Russie, de l'URSS, et bien, suite au démantèlement de la Russie, ces pays-là ont pris leur indépendance. Donc, pour situer un peu, on a au nord le Kazakhstan, qui fait 5 fois la surface de la France. C'est déjà pas la même échelle que chez nous. À l'ouest, on a l'Ouzbékistan, qui est un peu moins grand que la France. Au sud du Kyrgyzstan, on a le Tadjikistan, qui est un petit pays. Et puis, à l'est, on a la Chine. Donc là, c'est encore autre chose. Et pour donner à peu près la superficie du Kyrgyzstan, c'est 200 000 km². Donc c'est un pays plutôt à majorité, je dirais, montagnard, et où vivent beaucoup de nomades qui l'été vivent dans des yourtes et qui vivent aussi principalement de l'élevage. C'est pas un pays très très peuplé puisqu'il y a un peu plus de 6 millions d'habitants. La ville principale, la capitale, c'est Bichkek avec 900 000 habitants. Mais c'est un pays, c'est un des pays les plus démocratiques de ces régions-là. Parce que dans ces régions-là, je dirais pas que c'est des dictateurs pour la plupart, mais c'est des pays quand même souvent avec des régimes autoritaires. Donc là, c'est un pays, on peut dire, accueillant. Et ce qu'on verra dans le reportage, c'est principalement la vie des gens et principalement dans ce qu'on appelle le jaïlo, c'est-à-dire les alpages, ou comment chaque jour et les gens vivent avec l'élevage, le rassemblement des animaux, la traite, etc.
Alors, il y a deux horaires. Donc, à 14h30.
Oui, à 14h30 et à 18h30. Alors, pour situer un peu comment ça va se passer, bon, c'est très simple. D'abord, il y a une présentation du sujet. Ensuite, il y a la projection de la première partie avec un entracte et ensuite la deuxième partie. Et bien sûr, à la fin, le public peut répondre aux questions, faire des critiques s'il en a envie. Et puis, bon, se renseigner, enfin voilà.
Est-ce que, du coup, c'est en général, les films-conférences comme ça, c'est en présence du réalisateur ou c'est...
Eh ben, oui, tout à fait, puisqu'il y a une tradition à la LEP de connaissance du monde qui remonte maintenant, si je calcule bien, à 17 ans, puisque ça a démarré 5 ans avant que je parte en retraite. Et à chaque fois, le réalisateur est présent. Ce qui donne beaucoup plus de vie au sujet, quoi. Et puis comme là, c'est quand même un peu particulier, c'est ce qu'on appelle c'est à la fois un mélange de tradition, de vie des gens, puis aussi d'aventure, parce que c'est des pays où le réseau routier n'est pas forcément aussi bien entretenu que chez nous. Donc il y a toujours, fatalement, si on circule en véhicule, il y a toujours un peu d'aventure.
Merci. Eh ben on va continuer ou...
Oui, moi j'aurais une petite question.
Ouais, bien sûr.
Vous avez mis combien de temps par voie terrestre depuis la France, du coup, à aller jusqu'en Asie?
Ça, c'est un petit peu difficile à dire. Enfin, difficile à dire oui et non, parce que je dirais qu'on a mis peut-être une bonne semaine, une quinzaine de jours plutôt, pour arriver en Russie. Enfin, notre itinéraire, en gros, a été le suivant. On est parti donc de Blois, on est allé vers l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Pologne, et puis ensuite on est remonté par les pays, l'Estonie, les trois pays baltes on a traversés, pour arriver. Et ensuite, on a pris la direction de Moscou. Et de Moscou, on est descendu sur l'enseignement Stalingrad, qui s'appelle autrement maintenant. Et ensuite, on est allé vers le Kazakhstan. Et bon, je dirais 3 semaines, 1 mois, mais bon, ça ne me paraît pas forcément ça le plus important. Mais par exemple, c'était quand même une bonne question, mais au Kyrgyzstan, pour situer un peu les choses, on est resté 4 semaines. Moi, j'avais prévu d'y rester 3 semaines. Et en fait, parce que ce qui s'est trouvé intéressant, et ça, ce n'était pas du tout prévu au départ, on est parti à 2 équipages. Et puis, quand on part à 2 équipages, on est parti à 5 personnes. Et finalement, les 2 équipages, au bout de 2 mois, se sont séparés amicalement. Hein, on n'est pas fâchés. Mais on n'avait pas forcément le même système de voyage. Et moi, je me suis retrouvé au bout de 2 mois à rentrer au Kyrgyzstan tout seul. Ce qui était pas... Donc j'avais 2 solutions, où je disais je capitule, je rentre à Blois, mais on avait mis 1 an à préparer le voyage, où je disais je tente l'expérience, je continue, puis si ça va, je continue jusqu'au bout, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai eu la chance de... Je communiquais avec mon épouse qui était restée à Blois, je communiquais par l'intermédiaire d'une tablette, enfin par internet quoi, et 48 heures avant de rentrer dans ce pays, elle me dit tiens, on a un copain qui nous a communiqué une adresse de personnes qui parlent français, habitent dans la capitale, voilà l'adresse, si tu veux tu vas aller voir. Et puis alors effectivement j'y suis allé, Bon, ils ne me connaissaient pas. Hein. Donc, je suis arrivé dans la capitale où ils habitent et tout. Bon, je m'arrête à une station de taxi. Je demande au taxi, un premier taxi, s'il voulait m'y conduire. Il ne voulait pas. Bon, c'est son droit. Je demande un deuxième. Il m'y emmène. On arrive au pied de l'immeuble et au téléphone. Moi, je n'avais pas de téléphone. Il téléphone. Et puis, lui, il parlait la langue du pays. Mmh. La langue du pays, entre parenthèses, c'est le kirghize ou le russe, ou les deux. Et là, ils disent, voilà, il y a un Français qui est là. On arrive au pied de l'immeuble, c'était pas la bonne adresse. Donc là, mais j'avais le téléphone. Donc là, le taxi, il leur téléphone, il obtient la nouvelle adresse et il me conduit à la nouvelle adresse. Et puis le contact s'est fait comme ça. Et puis il y avait cette famille-là, et donc le père enseignant, la mère aussi, et le fils avait 17 ans, et puis il est très débrouillard, il parle aussi français. Et en fait, le père m'a proposé de le prendre comme guide pendant 3 semaines.
Ah,
et il était avec moi pendant 3 semaines, ce qui fait que c'était pas mal du tout.
Ouais.
Puis la 4e semaine, j'étais tout seul et ensuite j'ai continué.
D'accord.
Voilà.
Ça devait être chouette.
Ouais, très bien, ouais, ça donne envie. Ouais. Et ben,
Pour compléter, oui. Je ne voudrais pas accaparer la parole toute la soirée.
On va faire une émission spéciale voyage.
Ouais. Ce jeune-là, 2 ans après, il est venu en France.
Ah.
Et moi, donc on l'a accueilli en France et moi je l'ai emmené en Sicile. Pour visiter les volcans. Et donc, pendant 4 semaines, j'ai fait découvrir les volcans d'Italie.
Vous étiez son guide.
J'étais son guide, oui. Voilà.
Moi, je vous propose quand même d'écouter un petit morceau du CD que vous avez amené. C'est tout à fait particulier. Alors, on va écouter, puis vous nous expliquez après. Folk, kirghiz, ouais, on arrête là, on peut pas écouter tout le CD. Kirghiz folk music, c'est une guitare qu'on entendait.
C'est un genre de guitare, certainement un instrument qu'ils ont fabriqué eux-mêmes.
Ouais.
C'est une guitare à 2 cordes, donc ça s'entend. Hein, c'est y a pas de donc, mais c'est une musique un peu rudimentaire, mais il y a aussi de la guimbarde, il y a aussi d'autres choses. Et donc la conférence est illustrée de cette musique, mais pas uniquement celle-là, parce que ça pourrait être un peu rébarbatif à la longue. Mais voilà.
Vous avez entendu des concerts, des musiciens comme
non,
ça
j'ai pas quand, eu l'occasion quand
vous n'avez pas
entendre,
eu l'occasion. Non.
Mais de temps en temps, dans les yourtes, ils grattent un peu la guitare comme ça, d'une manière spontanée, quoi.
Merci beaucoup. Voilà, alors donc on rappelle le mardi 10 décembre à 14h30 et à 18h30. Ensuite, Mélanie, vendredi 13 décembre, il y a une comédie musicale. Je vais passer la parole donc à Geneviève, excusez-moi, hein, j'ai l'impression d'avoir juste quatre bras, alors que j'en ai que deux. Le concert, la comédie musicale Mélodie gourmande pour apéro bouffe par la chorale Chantelune. Alors, Geneviève, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe vocal? Vous m'avez dit que c'était un groupe vocal.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Groupe vocal, parce que nous ne sommes pas une chorale classique avec on appelle un peu des chorales pingouins, les gens en noir et blanc avec toujours un livre devant.
Pingouin.
Non, c'est pas le cas. Voilà. Non, nous sommes un groupe vocal parce que donc tous nos concerts, spectacles, nous bien sûr tout est appris par cœur. Donc pendant le concert, nous sommes costumés et nous faisons de la chorégraphie. On bouge suivant le thème bien sûr du spectacle qui est donné. Donc effectivement là nous allons donner un concert spectacle le vendredi 13 décembre à la LEP 20h30. J'espère qu'ils seront nombreux les spectateurs. Et donc voilà, Chantelune, c'est un peu particulier. C'est une association qui existe depuis 40 ans, puisque nous fêtons les 40 ans cette année. Ce n'est pas 50 comme la lettre, mais c'est 40. Hein. Moi, je suis dans ce groupe depuis une dizaine d'années. Voilà. Et donc, nous sommes dirigés par un chef de chœur qui est très jovial, convivial, Norbert Parmentier. Hein. Et le groupe, bien sûr, nous sommes accompagnés d'un pianiste, Pierre Rebourg. C'est d'ailleurs par lui que j'ai connu effectivement l'association de la LEP.
Oui, hein, la LEP le connaît très bien.
Voilà, tout à fait. Hein, puisqu'il donne des concerts à titre personnel également. Quoi vous dire? Donc effectivement, le Chantelune change de programme à peu près tous les deux ans, mais on va changer un petit peu, parce que des fois c'est long de mettre en place, de tout apprendre par cœur, et de la chorégraphie, il y a des personnes qui n'arrivent pas à enchaîner tout, donc on va changer un petit peu de système. On chante de la chanson française, donc Mélodie gourmande, c'est effectivement axé, puisque c'est apéro bouffe, c'est axé sur la boisson, et sur le manger, si on peut dire. Vous allez avoir, par exemple, le tourneau d'Orsini, vous allez avoir le bistrot, vous allez avoir de Juliette... J'ai perdu mes titres, excusez-moi. Rhum-pomme, voilà. Ouais. Vous allez avoir également le torboyau de Pierre Perret. Enfin, c'est donc un petit peu particulier. Et on a toujours des ustensiles qui sont adéquats, bien sûr, à ce spectacle. C'est sympa, c'est très sympa.
Autour
très
de la différent. Gastronomie.
Autour de la gastronomie, voilà. Donc, le chef a ses grandes cuillères, effectivement, pour diriger son concert, etc.
Tout le monde est costumé.
Tout le monde est costumé, bien sûr.
Ça, c'est...
Avec des accessoires.
Ça, c'est une constante
C'est constante. Pour tous les spectacles, change de costume. Tous les spectacles sont costumés, suivant le thème du spectacle. Le précédent, il s'appelait « De cœur en pétard ». Donc là, c'était les années hippie. Donc là, on était un hippie, voilà, enfin tout à fait costumé.
Et la drogue circulait.
La drogue circulait.
Sans limite.
Les pétards circulaient, effectivement, sans limite. Les cheveux longs, les rébanes.
Ouais, écoute, maintenant, si Joseph, c'est plus une radio scolaire, alors, on y va, là. Hein.
Voilà.
Pour ce répertoire, alors, vous avez un répertoire toujours contemporain?
Nous faisons du gospel également.
D'accord.
Beaucoup de gospel. Mm-hmm. Donc, on fait quelquefois des concerts gospel. On a fait, bien sûr. Hein. Je pourrais vous citer des concerts qui ont été faits... On a fait, Salade italienne de Cœur de Verdi, Offenbach et Jupiterie, Balade en Utopie. Donc ça, c'est différent, effectivement, les titres. C'est notre chef de chœur. Il nous laisse un peu pas tout à fait le choix de choisir les titres. C'est lui qui a très bon goût et très bonnes idées pour le faire.
Oui, mais s'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous ne pouvez pas...
Nous sommes obligés de suivre. Et donc, le programme, là, bien sûr, que nous allons donner le 13 décembre, c'est à peu près la fin, parce que nous avons commencé le fin 2018 à le produire. Donc, toute l'année 2019, on a un concert samedi prochain. Et là, donc, le 13 décembre, effectivement, à la LEP. Bon, et là, on clôturera, effectivement, ce programme. Et le nouveau programme va être un petit peu, avec quelques titres de celui-ci, mais ça va être un petit peu dirigé vers... J'ai perdu.
C'est pas grave. Ça va revenir. Si ça revient, vous nous le dites.
Oui, oui,
d'accord.
Tout à fait.
Comment se passent un peu les répétitions?
Alors, nous répétons. Oui.
Je pensais au costume. Voilà. Je pensais au costume, je pensais à la mise en scène. Alors, vous avez un chef de chœur, vous avez un pianiste. Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent précisément de ça, quoi?
Pour ce spectacle que nous donnons, la comédie musicale que nous donnons actuellement, les costumes, effectivement, étaient faits par une modiste, hein, donc, qui nous a aidés, qui a fait les plans, on a acheté les tissus. Elle nous a fait des costumes et nous avons également été accompagnés par un chorégraphe pour les chorégraphies, Sylvain Giraud. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, c'est lui qui nous a donné effectivement, qui nous a aidé dans le choix suivant le thème de la chanson interprétée, donc pour pouvoir adapter la chorégraphie en même temps. Quoi.
Ouais.
Voilà. Donc c'est vrai que ça donne un plus. Enfin, c'est vivant. C'est en général, les spectateurs aiment beaucoup. On a beaucoup d'applaudissements, on a des rappels, on a voilà. Donc
Mélanie,
je voulais juste dire que Sylvain Giraud, ça a été le médiateur culturel de l'ALEP pendant de nombreuses années l'animateur danse aussi de l'ALEP pendant plusieurs années. Je pense que Gérard saura mieux dire le nombre d'années que moi parce que c'est moi qui ai succédé à Sylvain. Donc je sais pas combien de temps il est resté.
Mais t'es pas animatrice danse toi alors ?
Non, par contre, j'ai pas succédé à tout.
Le nombre d'années précis, peut-être pas, peut-être une vingtaine. Mais déjà, moi, j'ai passé 22 ans à l'ALEP, il était là. Donc, une bonne vingtaine d'années. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il a monté des comédies musicales aussi.
Oui, tout à fait.
La première a été montée pratiquement les deux dernières années avant que je parte. C'était Entre chat et chat et qu'on avait fait un bon battage médiatique et qui avait très, très bien marché. Et les autres aussi, d'ailleurs.
Oui.
Alors, pour revenir à Chantelune, il y a des gens qui veulent intégrer votre groupe vocal, vous êtes encore ouvert aux nouvelles.
Bien sûr, au contraire, nous sommes à peu près actuellement à peine 40 choristes, nous avons été plus, nous avons donc les quatre pupitres, donc les sopranes, les altis, les ténors et les basses, et effectivement, nous sommes à la recherche, enfin, on aimerait bien
deux ténors,
voilà.
Comme d'habitude.
Les ténors nous font un petit peu, voilà, on n'a pas beaucoup. Donc, effectivement, on accueille, bien sûr, c'est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles personnes.
Très bien.
Voilà. Donc, les gens peuvent nous trouver. Nous avons une page Facebook, groupe vocal, Chantune groupe vocal.
Ouais.
Donc, voilà. On a également...
Vous répétez où ?
Alors, nous sommes de Cellettes, l'association est de Cellettes. Nous répétons donc à Cellettes même. Donc, le mardi soir, de 20h15 à 22h30.
Très bien.
Voilà. Donc, les gens peuvent nous joindre.
Je trouve que le Loir-et-Cher est dynamique en groupes vocaux.
Il
y a pas mal
de
chorales qui font tous un travail assez différent, mais assez représentatif. Quoi.
Voilà, tout à fait, oui.
Large répertoire. Vous avez une originalité peut-être
Avec les costumes, avec les costumes. La chorégraphie, suivant les répertoires. Il y a des répertoires qui plaisent plus ou moins. Enfin, ça dépend des personnes, bien sûr, mais jusqu'ici... On n'a pas eu de soucis. Et le prochain, effectivement, c'est sur l'immigration, j'ai retrouvé.
Oui.
Donc, vous trouverez des titres comme Frontières, Afrique à Dieu, Aller sans retour de Juliette, Afrique à Dieu, c'est Sardou. Voilà. Donc, on a un nouveau panel. On a déjà bien commencé pour essayer de commencer à le produire sur l'année à partir de mai-juin 2020.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, grosse actualité, alors, ça prend beaucoup de temps, ça.
Oui, parce que nous avons des fois des répétitions le dimanche, le dimanche matin, quelquefois dimanche toute la journée, quand nous sommes prêts des premiers concerts que nous sortons pour être bien au point. Donc,
Alors, par exemple, cette comédie musicale Mélodie gourmande pour apéro bouffe, vous allez le rejouer ou vous le jouez qu'une fois?
On le joue depuis fin 2018, comme je vous l'ai dit.
Ah oui, pardon.
Voilà, ça fait à peu près un an et on termine bientôt là sur la fin de l'année 2019.
Et en général, vous jouez plusieurs fois.
Ah oui, je ne pourrais pas vous citer, mais là, on a fait beaucoup de... Oui, tout à fait. C'est peut-être la dixième, là, peut-être 8 ou 10e, je ne sais plus.
Et vous restez dans la région pour les représentations?
Plus dans la région, sur le département, on est à Romorantin, donc samedi, effectivement, dans les communes environnantes, Saint-Gervais, Le Carroir à la Chaussée, on a fait pas mal. Et nous faisons des rencontres avec d'autres groupes que nous recevons et nous nous déplaçons également pour faire des rencontres avec. Donc c'est enrichissant, on connaît de nouvelles personnes et puis on échange, on fait des spectacles ensemble, chacun fait sa partie, puis après on essaye de faire quelques chansons ensemble, donc c'est sympa.
Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci. Oui, c'est moi qui vous remercie.
Ça c'est bien. Alors, on rappelle, hein, vendredi 13 décembre à 20h30, comédie musicale, mélodie gourmande pour apéro, bouffe, par la chorale Chantelune. Et l'entrée, c'est, bah, si vous n'êtes pas adhérent, vous payez 10 euros. Et si vous êtes adhérent, 8 euros. Vraiment, vous faites des tarifs. C'est presque gratuit, quoi.
Il faut adhérer.
Voilà, il faut adhérer.
C'est pour ça. Que ce soit encore plus gratuit.
Non, c'est vrai qu'en plus, votre adhésion est vraiment pas chère.
Hein. Non, on peut dire, c'est 7 euros individuels et 11 euros pour la famille.
Ouais.
Et
pour l'année ?
Pour l'année, oui.
Ah oui, effectivement. Ah,
n'est-ce pas ?
N'hésitez pas.
Un étonnement en direct, là.
Faut pas s'en priver, alors.
Ah ben non. Ah ben non, non. Bon, eh ben, moi, je vous propose de faire une petite pause musicale avant de retrouver nos amis Fred et Étienne. Pause musicale dans l'air du temps avec François Béranger.
Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante, au passage des cœurs de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin, traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, l'eau cérébrale et fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer. Sur les pelouses interdites hors des institutions sacrées, sacré nom de Dieu c'est meilleur, essayez pouvoir et puis dites, divorcez-moi, châtrez-moi le cœur et puis le reste aussi quel bonheur. Et mangez-les avec des frites, vous n'aurez point ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, dans cérébral et fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, être différent c'est un crime, être noir ou jaune ou pédé, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine ça mine, alors que l'amour ça détend, que ça rend jeune et bon tout le temps. Mais bien sûr c'est un gros péché, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, cérébral et fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, leur cérébral et fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur.
François Béranger, vous n'aurez pas ma fleur. Le libertaire François Béranger, à redécouvrir, absolument. On continue dans la programmation de l'ALEP. Fred et Étienne, vous êtes tous les deux graphistes. Je vais vous laisser vous présenter et présenter le projet que vous avez mené à l'ALEP.
Eh bien, bonsoir. Moi, je suis graphiste indépendant à Blois et aussi enseignant en design graphique à l'école éthique, qui est une école... une école blésoise qui forme en 4 ans, 4 ans et plus si on veut. Et puis voilà, j'exerce depuis une vingtaine d'années en tant qu'indépendant dans la ville de Blois.
Étienne ?
Alors moi je suis graphiste, alors pas vraiment indépendant mais autonome on va dire, puisque je travaille au sein d'une coopérative, une SCOP, qui s'appelle Copanam. Donc je suis graphiste à Blois, installé à Blois depuis 5 ans et puis dans le métier depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Je suis aussi enseignant à l'IUT en MMI, métier du multimédia et de l'internet, voilà, sur l'aspect plus technique du métier, sur les logiciels.
Et voilà. Une petite parenthèse quand même, je tiens à dire que c'est toi qui nous fais quasiment tout le visuel de Studio Zef, avec beaucoup de talent. Donc,
et de plaisir surtout.
Je tenais à ça nous fait très plaisir. Alors si ça te fait plaisir en plus, oui, j'espère.
Moi, j'espère. Pour moi, c'est des cartes blanches qui sortent un peu de l'ordinaire, donc ouais. Ouais, j'aime beaucoup.
Ouais. Oui, c'est ça. Hein. C'est quand il y a de la créativité comme ça, sans, enfin avec des contraintes automatiquement, mais c'est pas des contraintes pesantes, on va dire.
Non, non, ça sort du commercial, donc c'est bien aussi.
Ouais, ouais. Tu fais des choses comme ça.
Comment ça
pour le commercial.
Ah bah oui, souvent quand même les clients qui, enfin voilà, on parle de clients, on parle de projets, on parle souvent de factures, de devis, ce genre de choses. Donc oui, il y a un enjeu pour eux. À faire une identité qui va attirer pour eux de nouveaux clients, ou je sais pas, un flyer qui va faire que les gens vont venir à leur événement, une étiquette de vin qui va donner envie. Maintenant, on peut parler de vin à l'antenne. voilà, ce genre de choses. Donc oui, forcément, il y a un enjeu derrière d'argent, quoi, souvent.
Ouais.
Il ne faut pas que ça coûte trop cher à fabriquer, ou voilà, toutes ces questions-là, quoi.
Alors finalement, c'est des questions que peuvent se poser aussi les associations, mais l'enjeu économique est pas le même et le message est pas le même. Mélanie, sur vous avez sollicité l'ALEP a sollicité Fred et Étienne, de quelle manière, comment s'est faite la rencontre?
Alors, comment s'est faite la rencontre? Bah moi, je connais Fred personnellement. Et je lui avais dit qu'on cherchait à faire un nouveau logo pour les 50 ans de l'ALEP. Et voilà. Bon, au départ, pour être tout à fait sincère, au départ, on voulait lancer un concours de nouveaux logos aux habitants et aux habitantes de Blois. Et quand Fred a eu l'info... Bon, bah son âme de graphiste a fait un bond. Et ce que je comprends, parce qu'après, il m'a expliqué, et on n'avait pas du tout pensé parce qu'on était dans le feu de l'action, mais effectivement, quand on a des personnes dont c'est le métier et qui gagnent leur vie grâce à ça, on ne peut pas demander à n'importe qui de faire un logo qui aura une identité qui ne voudra pas dire ce que veut dire le logo actuellement, le nouveau logo de l'ALEP, parce que voilà, ça sera juste du ce qu'on a trouvé joli ou pas. Mais là, voilà, le nouveau logo, il a un sens et on est très contents et contentes d'avoir travaillé avec Fred et Étienne pour ça. Et on a compris aussi le sens de tout ça et ce projet qui était vraiment au cœur de l'éducation populaire, voilà, ça nous a beaucoup apporté.
Fred, qu'est-ce qui t'a dérangé vraiment dans le fait de demander aux gens de donner leur avis, quoi, sur...
En fait, je ne suis pas le seul à avoir, à avoir tiqué sur l'affaire. Non, en fait, c'est juste un peu le process. Mais d'ailleurs, chronologiquement, on a eu l'info, peut-être Étienne, un peu avant moi. Et puis, on adhère tous les deux à une association blésoise qui s'appelle Millefeuille et qui fait la promotion de nos métiers, de la communication. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a un concours, c'est une asso qui ne sait pas trop comment s'y prendre. En fait, ce qui était un peu... c'est pas que c'était dérangeant, mais on s'est dit, tiens, c'est dommage, nous, on est là, on est sensible aussi au tissu associatif, à certaines valeurs. Moi, je suis enseignant, j'ai l'idée de la transmission, ça me parle. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est présenté un peu spontanément, par le biais de Mélanie pour moi, parce que ça a un peu accéléré les choses en fait. Et puis donc on s'est dit, on peut peut-être leur proposer quelque chose, une opération ensemble, des ateliers. Et puis on a commencé à discuter et c'est comme ça qu'est né ce projet.
Alors très, très concrètement, comment ça a démarré, sous quelle forme? Les ateliers, vous en avez fait combien? Avec qui? Combien de personnes?
En fait, on souhaitait avoir suffisamment de personnes pour pouvoir mener environ 4 ateliers, c'est ça. On avait à peu près 4 ateliers de prévus. C'était pas toujours les mêmes personnes d'un atelier à l'autre, ça bougeait un peu. Mais l'idée, c'était de pouvoir... d'avoir une approche pédagogique sur la manière dont on conçoit une identité et d'essayer de transmettre une partie de ce que nous on vit dans notre métier à des gens, à des néophytes en fait. Et puis ça avait du sens du coup de le faire à des adhérents, à des gens du quartier. Ça c'est ça qui était super dans la démarche.
Ouais, tout à fait. Étienne, ça a été aussi pour toi important, le fait que ce soit effectivement les gens du quartier et puis des gens à Émite qui n'avaient pas peut-être le réflexe de réfléchir aussi sur quelle valeur ça a un logo et quelle portée au niveau du message ça peut avoir. Ça a dû être aussi intéressant pour eux de découvrir tout ça.
Ah oui, tout à fait. L'objectif des ateliers, comme l'a dit Fred, c'était d'avoir cet équilibre entre transmettre, nous, des savoirs, des compétences, enfin voilà, sensibiliser les gens à nos métiers, et puis en même temps garder le côté spontané de leur création, l'envie qu'ils avaient de mettre les doigts dans la peinture, faire des formes, faire de la couleur. Et c'est ça qu'on essaie de garder au fur et à mesure des quatre ateliers. À chaque atelier, ça s'est conclu par une création spontanée sur un moyen différent. Mais voilà, un peu pour se libérer, puis pour garder cette vitalité, cette énergie qu'il y avait quand même au sein du groupe. Et voilà, c'était vraiment l'idée de transmission, et puis vraiment le souci de l'éducation populaire. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté par ailleurs, faire des choses avec des néophytes, on a envie, on essaye, et puis après on en discute. Et puis voilà. Et puis ça permet aussi de transmettre l'idée que ben, un logo, c'est un visuel, certes, mais c'est aussi du sens derrière. Et puis des émotions, donc on a essayé vraiment de garder cette alchimie pendant les ateliers.
Est-ce que c'est possible de nous expliquer comment s'est déroulé finalement tous ces ateliers pour arriver au but final qui est le logo actuel hein, de la LEP. Parce que c'est vrai, Étienne, quand tu m'avais expliqué au cours de la soirée des 50 ans de la LEP, comment ça s'était déroulé, on voit hein, sur les panneaux, ils sont toujours, hein, j'imagine,
jusqu'au
20 décembre, on peut aller voir la démarche, vous avez fait des grands panneaux avec la démarche explicative visuel de comment c'est déroulé. Ça a l'air, effectivement, quand on ne connaît pas, ça a l'air complexe. Hein. S'il n'y a pas la traduction de ces panneaux, ça a l'air très très complexe. Mais par contre, effectivement, on reconnaît, parce que ça fait partie de notre paysage quotidien, on reconnaît des logos que vous avez utilisés. Hein, voilà, le logo de YouTube, le logo de... voilà, vous avez travaillé dessus pour expérimenter justement ce que ça fait si on change de forme, si on change de couleur, si on change... voilà. Comment ça s'est déroulé, tout ça ?
Vas-y, vas-y. Étienne ? Dans le premier atelier, il fallait voilà, un peu mettre les gens dans l'ambiance logo, se mettre des logos dans les yeux pour se mettre un peu dans cette idée-là de création graphique. Être un peu dans l'ambiance. Donc on a commencé par regarder quelques logos archi connus, voilà, comme tu disais, YouTube, le Centre Pompidou, la Nouvelle République, enfin, voilà, des choses très locales et des choses plus nationales ou internationales, pour associer le nom de l'entreprise avec le logo qui la représente, et voir qu'un logo, ça peut se décortiquer. Ensuite, un logo, ça peut se démonter. Fred, c'est un exercice qu'il fait avec ses étudiants de concassage. En fait, on change la couleur, on change le signe, on change la typo. Et tout de suite, l'entreprise n'est plus la même, en fait. Qu'est-ce que serait YouTube si le petit logo rouge devenait vert ? Et si la flèche, au lieu d'aller vers la droite, elle allait vers la gauche ? Tout ce genre de travail. Donc ça, on l'a documenté, parce que dès le début, on savait qu'il y aurait une exposition pour présenter les ateliers. Donc on l'a documenté au fur et à mesure des ateliers, puis c'est ce qu'on représente dans l'exposition, vraiment le déroulé chronologique. Donc sensibiliser les gens à l'idée d'un logo, en fait, à qu'est-ce que c'est qu'un logo ? Et puis après, commencer à partir, voilà, ouvrir grand les portes de la créativité, on va dire. Tester les techniques, tester les formes, tester la typo, tester la couleur. Et puis petit à petit, restreindre pour affiner et crémer, pour arriver à deux propositions au final, qu'on a présentées au bureau. Et à partir de là, il y a une proposition qui a été retenue. Puis nous, on a affiné techniquement, en fait, sur les logiciels, pour que ça fasse des fichiers utilisables par les salariés, qui aboutit à l'identité qui est présentée sur le dernier panneau.
Donc si on va sur le site de la LEP, on voit le logo qui est, je crois, il y a une petite touche rose, il me semble. Alors, est-ce que ça, c'est la couleur est modifiable selon vos thèmes, vos thématiques peut-être à la LEP je ne sais pas, est-ce que ça a été décliné ?
Oui, en fait, dans la dernière proposition, effectivement, on a développé ce qu'on appelle un système génératif, c'est-à-dire avec un logo vivant. C'est-à-dire qu'il y a le signe qui vit avec le texte, donc le texte Alep, et puis un signe qui vient par-dessus, à côté, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Et il peut changer de couleur. Donc c'est vrai que ça faisait partie un peu des propositions que nous, à la fin, qu'on a proposées. Et c'était après une manière pour l'association de d'allouer une couleur à une thématique. Après, le but, c'est qu'ils partent un peu à l'aventure aussi avec leur identité. Voilà, il faut qu'ils le prennent en main, il faut qu'ils s'en servent. C'est à eux de jouer avec. Mmh. C'était un peu l'idée. Donc je crois que c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, nous, on en a vu quelques résultats l'autre soir à la soirée.
C'est une démarche peu commune, finalement, de jouer avec les logos, parce que les logos, effectivement, qui dit logo, c'est identité, et une identité, il faut que ce soit immuable, sinon les gens sont perdus, non ?
En fait, ça se développe quand même pas mal. Le métier est un peu en mutation, mais le résultat aussi, c'est-à-dire que tous les supports numériques, digitaux, ont fait aussi bouger un peu les standards. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée d'un système qui est vivant, mais qui reste reconnaissable, peut s'inviter assez naturellement dans une démarche de création pour une identité visuelle.
Oui, et puis je pense que dans le cadre de l'ALEP, ce qui était intéressant, c'était de mettre en place une ambiance visuelle pour reconnaître tous les événements, toutes les publications, et pas avoir une marque au sens de marquer, quoi, comme on marque les bestiaux, quoi. Parce que ce n'est pas une entreprise qui vend des produits qui doivent tous être labellisés ALEP. C'est plus mettre l'ambiance du lieu, mettre l'ambiance comment les gens fonctionnent, l'éducation populaire. Et c'est pour ça le système génératif collait assez bien à ces contraintes-là, quoi, en fait.
Et comment ont réagi les personnes avec qui vous avez travaillé ? Alors déjà, c'était assez mélangé. Est-ce qu'il y avait des adhérents, par exemple, de tout âge, ou c'était plutôt des adultes, ou il y avait des jeunes aussi qui se sont intéressés à ça ?
C'était tous des adultes, ouais. Mais il y avait plusieurs tranches d'âge. Mmh. Après, ça a bougé un peu, hein, donc... Et effectivement, a priori, nous, on les a un petit peu embarqués dans une aventure créative avec l'idée que, franchement, on ne savait pas exactement ce qui allait sortir. Mmh. C'était aussi pour nous l'aventure. Et ça, c'était assez génial. Parce que moi, personnellement, puis on en a parlé avec Étienne plusieurs fois, c'est vrai qu'on a été surpris aussi. Parce que nous, ça nous sortait aussi de nos habitudes de travail. Et que tout à coup, il y avait une singularité qui sortait de gens qui n'avaient jamais fait ça. Nous, on avait réfléchi quand même en amont aux différentes directions pédagogiques pour savoir comment les embarquer dans cette aventure. Donc, on a réfléchi à différentes techniques accessibles. Et puis voilà. Donc, en fait, c'était assez ludique. C'était assez, vraiment très ludique. Et ils ont été tous, pour peu que je m'en souvienne bien, ils étaient plutôt ravis, voire même, ils ont appris plein de choses, parce qu'on a revu des gens à la soirée qui nous ont largement remerciés, et puis ils nous ont dit qu'ils en avaient tiré quand même des super enseignements, même pour eux, pour leurs entreprises personnelles, etc. Ouais. C'était super, c'était gagnant-gagnant, donc c'était un peu le but de la manœuvre. Ouais.
Pour vous, l'aventure logo, ALEP, identité visuelle de l'ALEP s'arrête là, ou vous avez d'autres projets ?
Pour l'ALEP ?
Pour l'ALEP, l'ALEP, pour l'instant.
A priori, pour l'instant, ça s'arrête là. Bon. Voilà, donc après, on verra.
À suivre.
À suivre, ouais.
Mélanie, comment vous vous saisissez du nouveau logo ?
Alors, c'est plus Fabienne.
Alors Fabienne.
Fabienne qui est passée à l'émission du mois dernier, mm-hmm. Qui est la personne qui a la communication et qui fait les affiches. Et du coup, c'est elle qui se sert le plus du logo, puisqu'elle elle le place sur les affiches. Fred et Étienne nous ont proposé différentes choses quand ils sont venus nous... Ils apportaient le logo final avec et ils nous ont expliqué où le placer entre le texte et le logo, comme Fred le disait, mais aussi où placer le logo qui change de couleur sur une affiche. Alors je sais plus comment le A, on appelle ça le logo. Ou c'est le A avec les écritures qu'on appelle le logo ?
Oui, c'est ça. Le A, c'est plutôt A. Le signe.
Voilà, le signe. Voilà. C'est le signe donc, qui change de couleur, qui peut être placé à différents endroits de l'affiche. Et voilà, ils nous ont expliqué aussi que en le faisant sur chacune de nos affiches, les personnes vont reconnaître que tout de suite, c'est une affiche de l'ALEP, c'est un événement de l'ALEP. C'était aussi ça pour marquer notre identité et que les personnes reconnaissent l'ALEP quand ils voient une affiche dans la rue, dans un magasin. Donc c'est plus Fabienne qui s'en sert, même si bon, je m'occupe aussi plutôt des réseaux sociaux. Mais voilà, c'est vraiment Fabienne qui saisit vraiment de ça. Et grâce aussi à tout ce qu'ils nous ont expliqué, je pense que voilà, elle est ravie aussi parce qu'elle a... Elle a une liberté de création. Elle avait déjà à l'ALEP une liberté de création, mais là, le fait que voilà, avec tout ce qu'ils nous ont appris, j'imagine que voilà, c'est encore plus plaisant d'avoir comme un cadre, à savoir que voilà, tu peux utiliser ça, pour que ça matche avec les personnes et qu'elles reconnaissent. Bon, je sais pas tellement comment l'expliquer parce que c'est pas mon métier, mais en tout cas, voilà, de ce que je sais, elle est ravie et ça lui ouvre pas mal de portes de créativité.
Oui. Oui, c'est, donc Fabienne, c'est elle qui s'occupe de toute la communication, c'est-à-dire que c'est elle aussi qui fait, par exemple, le programme là, que j'ai sous les yeux.
Oui.
Donc c'est elle qui a conçu
oui, c'est
tout
elle
ça.
Qui fait le programme de A à Z.
D'accord. Ouais. Et les affiches aussi.
Alors, par Très exemple, bien. pour Chantelune, la formation musicale, c'est ça. Le groupe vocal nous a donné son visuel parce qu'on a certaines personnes qui viennent pour certains événements qui ont déjà un visuel. Oui. Donc elle s'est servie de la base du visuel et a rajouté l'identité de l'ALEP dessus et voilà un peu notre nouvelle identité graphique quoi.
D'accord. Voilà. Vous avez eu des retours des adhérents par rapport justement au changement de logo
Ouais. Les personnes, enfin en tous les cas, ce que je me souviens, on se souvient toujours du positif. Enfin, pas toujours, mais pour ma part.
En l'occurrence là.
non, les personnes nous disent que ça change, que ça fait beaucoup plus moderne et que, ouais, c'est. Bah, j'ai l'impression que ça fait l'unanimité, ils apprécient.
Bon, très bien. On s'achemine doucement vers la fin de cette émission. Mélanie, est-ce que tu veux rajouter quelque part, peut-être en remettre une couche sur l'agenda du mois de décembre? On va tout rappeler.
Ouais. Hein,
on va tout rappeler. T'as pas ton petit papier devant
non,
toi?
Non, mais j'ai tout en tête.
Non.
Allez,
je crois. Vas-y, je te mets au défi.
Alors.
Fais gaffe, je vérifie. Hein.
Alors, on commence par depuis samedi 30 novembre et jusqu'au 20 décembre, les expositions des 50 ans de l'ALEP, donc l'exposition du nouveau logo, l'exposition sur 50 années d'ALEP et l'exposition de l'artiste La Morue. Ensuite, donc, le 6 décembre, c'est annulé. La conférence gesticulée de Julie Babamy de Souza sera reconduite au mois de janvier. Je peux dire aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. Le lendemain, 7 décembre, dans le cadre de Délire d'hiver, on fait partie de... Donc, ce n'est pas sur le programme, mais on est en partenariat avec la ville et des associations et services de Blois-Ouest pour faire un événement plutôt à destination des familles et des enfants sur Quinière Village, Quinière Commerce. Voilà. Il y aura le Père Noël, voilà, dans le cadre.
Pourra se prendre en photo sur ses genoux, tout ça.
Tout à fait.
D'accord.
Avec, on a un appareil photo Polaroid et on pourra donner aux personnes des petites photos d'elle et eux avec Monsieur le Père Noël qui sera là.
Ah ben on a hâte.
On a hâte, voilà. Donc ça, c'est le lendemain, 7 décembre. Ensuite, mardi 10 décembre, la conférence ciné-conférence de Gérard Moreau sur le Kyrgyzstan. Ça s'écrit Kyrgyzstan. On dit Kyrgyzstan.
On peut dire les deux.
On peut enlever le zi.
On peut dire la Kyrgyzie. Moi, je dis le Kyrgyzstan parce que c'est plus facile à dire.
Oui.
Mais mon épouse, elle dit le Kyrgyzstan. Ce qui est plus difficile à dire.
Ah oui.
Je rajoute juste deux mots. Pour synthétiser le reportage, je dirais qu'en fait, c'est un reportage humain et coloré.
D'accord. Eh ben, donc, ce reportage humain et coloré, c'est mardi 10 décembre à 14h30 et 18h30. Et vendredi 13 décembre, le spectacle apéro-bouffe pour...
Mélodie gourmande. Pour apéro bouffe.
Voilà, c'est ça.
Mélodie musicale de Chantelune, voilà.
Voilà, c'est ça. À 20h30.
Bravo.
Merci.
Ah non, mais tu es formidable. Hein. tu mériterais de travailler à la LEP.
Hein. Voilà. Et vu qu'à chaque fois, j'en remets une couche sur le projet Si on faisait genre.
Mais oui.
Et je peux dire que le samedi 21 décembre, il y a le quatrième et dernier atelier théâtre pour l'année 2019 pour notre projet. Qui questionne le genre et l'égalité homme-femme avec Amélia de 14h à 18h. Pour celles et ceux qui voudraient des infos sur le projet, vous pouvez aller sur le site de l'ALEP ou directement taper Si on faisait genre sur Google. Normalement, on trouve le site du projet. Voilà, on fait le dernier atelier théâtre si vous voulez nous rejoindre.
Oui.
Voilà.
Oui. Allez-y,
c'est très bien. Et on continue en 2020, évidemment.
Ah voilà. Oui, hein, ça ne s'arrête pas là.
Évidemment,
hein.
Là, c'est le dernier de 2019 pour constituer la troupe. Et après, on va commencer à apprendre le texte en 2020 pour, voilà, pour jouer un spectacle.
Ah, super. Bon, de toute façon, c'est bien, on est aux premières loges pour se tenir au courant de ce qui se passe.
Tout à fait.
On se retrouve le mois prochain ?
Oui.
Hein ? Voilà, du coup, à moins qu'il y ait une date avant fin décembre. Alors là, franchement, je sais plus là.
Non. C'est début janvier. Ça doit être le premier lundi de la reprise. Peut-être le 6 janvier.
Voilà, ça y est. Voilà. J'ai retrouvé mes notes. Merci à tout le monde d'être passé par le plateau de Studio ZEF. Merci beaucoup, c'était vraiment très sympa.
Merci.
Nous, alors, on se retrouve donc le 6 janvier, Mélanie. Je rappelle que cette émission est podcastable sur le site de studiozef.fr et écoutez celle-là et puis toutes les autres aussi, c'est drôlement bien. Bonne soirée à tous, à bientôt à la radio.